RPL, votre radio Lorraine.
Votre radio Lorraine.
Aujourd'hui, on parle cyclisme et légende. Le Tour de France 2026 a commencé. Ça a commencé le 4 juillet. Et un ouvrage revient sur l'une des ascensions les plus mythiques, l'Alpe d'Huez. Son auteur, Jean-Paul Vespini, spécialiste reconnu du cyclisme, nous plonge dans ce qu'il appelle le défouloir du Tour. Et il est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Eh bien, écoutez, ça va très bien. Je suis ravi de participer à votre émission.
Eh bien, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes donc ensemble pour parler vélo. Beaucoup aiment le vélo. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de consacrer un ouvrage entier à l'Alpe d'Huez, cette montée qui fascine autant qu'elle impressionne ?
Parce que, en fait, je me suis rendu compte que c'est une montée qui est assez moderne. Et elle est devenue tout d'un coup aussi mythique et aussi importante que des cols comme le Tourmalet qui ont été gravis en 1910, ou comme le Galibier qui ont été gravis l'année d'après 1911. Donc ça veut dire que malgré l'absence d'ancienneté comme ces grands monuments du cyclisme, l'Alpe d'Huez s'est imposée dans l'ère moderne comme le sommet mythique. Ça m'a intrigué. Il y avait la magie aussi des virages numérotés qui ajoutent à la montée de l'Alpe un suspense comme un sablier géant qui coulerait. Tout ça m'a donné envie d'aller voir un peu à l'origine. C'était en 1952 et donc de commencer un petit peu l'histoire de l'Alpe d'Huez. Et puis, il y avait aussi un peu cette magie, entre guillemets, qui disait que celui qui est en jaune en haut de l'Alpe d'Huez gagne le tour. Alors, c'est pas forcément tout le temps vrai, mais ça s'est tellement répété de nombreuses fois, et notamment en 52, puisque c'est la première ascension, Fostocopi gagne l'étape et endosse le maillot jaune, que cette ascension est devenue un petit peu le moment clé du tour. Et donc, ça m'a donné envie d'en parler.
Alors, parmi toutes les éditions, vous l'aviez depuis 1952, quelle image reste pour vous les plus marquantes ?
Alors, les images les plus marquantes, il se passe tellement de choses. Bon, je pense par exemple à 1977. On assiste pendant la montée alors que Van Imp, le petit coureur belge, est en tête, il se fait renverser par une voiture de l'organisation et donc il est doublé par les deux coureurs qui le pourchassaient, Kuiper, le hollandais, et Thévenet, le français, maillot jaune, et on voit un assist en direct Van Imp avec sa, parce qu'après il retombe encore et sa roue est cassée, avec sa roue à la main, en train désespérément dans la fureur et la confusion de l'Alpe d'Huez d'attendre sa voiture de directeur sportif qui ne peut pas passer. C'était une image forte. Il y a 86 aussi, l'arrivée main dans la main de Bernard Hinault et Greg LeMond. Ils se sont fait la guerre pendant tout le tour. Hinault avait promis à LeMond de lui offrir la victoire parce que l'année d'avant, l'Américain lui avait permis de remporter son cinquième tour. Mais la sixième victoire qu'il aurait pu remporter cette année-là, en 86, a fait qu'Hinault s'est amusé un petit peu avec l'Américain à lui faire croire qu'il lui offrait le tour, mais à lui montrer qu'il voulait le gagner. Et c'est en haut de l'Alpe d'Huez, alors que la veille, pendant la nuit, Bernard Tapie est venu réconcilier les deux champions, que l'Américain et le Français passent la ligne d'arrivée main dans la main. Vous voyez, ce sont des images fortes. On peut y ajouter encore, par exemple, la chute de l'Italien Guerini, qui est, alors qu'il va gagner l'étape à quelques à moins de kilomètres de l'arrivée, il est déstabilisé et renversé par un photographe amateur qui se met en plein milieu de la route. Bon, Guerini tombe, il remonte sur son vélo et il réussit à gagner l'étape. Voilà. Bon, ça, ce sont des images marquantes. Ce ne sont pas les plus dramatiques. Il y a eu d'autres faits. Mais bon, ça ajoute un petit peu au prestige de l'Alpe d'Huez.
Ce sont des moments qui incarnent le mieux l'esprit hein, de l'Alpe d'Huez, il y en a beaucoup.
Oui, disons que d'abord parce que c'est une guerre, enfin comment dire, il se passe toujours quelque chose, mais surtout aussi c'est un moment clé. Alors l'esprit de l'Alpe d'Huez, c'est d'arriver à monter, à s'affirmer en haut de l'ascension et à essayer de conquérir l'étape, parce que c'est l'étape la plus prestigieuse. Mais c'est aussi montrer que c'est sur cette étape que le Tour déroule quelquefois ses moments forts. Par exemple, en 1984, eh bien, c'est un coureur colombien qui veut s'imposer là-haut. Et c'est la première fois qu'un Colombien va gagner une étape sur le Tour de France. C'est Herrera. D'autres fois, il y a des moments moins glorieux. En 1978, c'est un Belge, Michel Pollentier, qui avait un style qui n'était pas du tout joli. On le comparait à un crapaud sur un vélo, il se dérochait de tous les côtés. Ce Pollentier réussit à gagner l'étape et endossait le maillot jaune, mais il est pris la main dans le sac, c'est le cas de le dire, au cours du contrôle antidopage. Il avait caché une poire chargée d'urine saine, celle-là, sous son aisselle, et il a été découvert au contrôle. Donc, bien sûr, on lui a retiré le maillot jaune, retiré l'étape, qui a été donnée à Kuiper, et ça a été un petit peu, je dirais, un des premiers scandales publics du dopage. Bon, malheureusement, ça s'est déroulé sur l'Alpe d'Huez. Il y a comme ça des moments assez forts dans cette montée. Chaque année, il se passe quelque chose.
Ouais, je ne connaissais pas cet épisode. En fait, il se passe toujours quelque chose, oui, vous l'avez dit, c'est ce qui fait son... j'allais dire son charme, c'est peut-être pas le bon mot.
Non, c'est ce qui fait son... Oui, vous avez raison, c'est ce qui fait son intérêt. Bon, par exemple... Alors, je parlerai plutôt d'une guerre des nerfs, un peu, parce que les coureurs ont tellement envie de s'affirmer, de se montrer. La victoire est tellement prestigieuse là-haut. Oh, j'oserais dire que c'est peut-être la victoire en haut de l'Alpe d'Huez la plus importante dans un Tour de France. Et même si les autres, elles sont toutes importantes, gagner au sommet du Ventoux, ou gagner, comme c'est arrivé une fois au sommet du Galibier ou au sommet du Tourmalet, c'est aussi prestigieux. Mais l'Alpe a une saveur particulière. Alors, guerre des nerfs, oui, je pourrais évoquer 1977. C'est le Français Bernard Thévenet qui est en jaune. Il est en jaune et il est attaqué par Kuiper et Zoutemelk. Et personne l'aide dans la montée. Kuiper est devant, il essaie de prendre de l'avance pour lui prendre le maillot jaune. Thévenet me racontait, et c'est aussi pour ça, je reviens à votre première question, que j'ai eu envie d'écrire ce livre sur l'Alpe d'Huez, parce que Thévenet m'a confié, et je dois vous dire qu'il était notre pilote après qu'il ait fait sa carrière, dans la voiture du Provençal pour lequel je suivais le Tour. Et Thévenet nous racontait que dans cette montée, en 77, il était tellement fatigué, mais il se battait contre les autres. Il entendait le public, ça c'est pas très glorieux, lui crier des insultes, parce que pas tout le monde était pour lui. Et il y faisait pas attention. Il m'a dit, tout ce qui comptait, c'était d'arriver en haut et de sauver mon maillot jaune. Il va terminer l'ascension de l'Alpe d'Huez sur le Grand Plateau, les connaisseurs comprendront ce que ça veut dire. Il sauve son maillot jaune pour 8 secondes. Il est tellement fatigué, tellement épuisé, qu'il n'arrive pas à descendre de son vélo. C'est son masseur qui le fait descendre du vélo. Il n'arrive pas à monter les escalier conduisant à l'hôtel. C'est son masseur qui l'aide à monter les escaliers, et il est tellement épuisé qu'il ne mange pas le soir, il se met dans le lit et il se repose. Pas le courage d'aller sur le balcon saluer ses supporters sur lequel il avait mis le maillot jaune. Et dans la nuit, il se refait la santé, il descend en silence, il ouvre le frigo de l'hôtel et enfin il mange un petit peu pour pouvoir prendre le lendemain le départ de l'étape, et il gagnera son tour, son deuxième tour. Voilà, c'est une belle histoire, ça se passe en haut de l'Alpe d'Huez. Mais on pourrait, à propos de guerre des nerfs ou de prestige, on pourrait par exemple citer en 1990 la montée de Ronan Pinsec. C'est un petit Français. La veille à Saint-Gervais, il a conquis le maillot jaune et il va arriver à le sauver pour pas grand-chose dans la montée de l'Alpe d'Huez. Il va le perdre le lendemain à Villard-de-Lans. Mais il est heureux et toute la France est fière de voir Ronan Pinsec garder le maillot jaune en haut de l'Alpe d'Huez. Même chose pour notre champion qui est commentateur aujourd'hui, Vauclair. Il avait pris le maillot jaune en 2011, pardon. Il le garde pendant 10 jours. Toute la France rêve de Vauclair en jaune à Paris. C'était pas possible parce que c'était trop dur, mais c'était un coureur tellement courageux. Et eh bien Vauclair va le perdre sur la pente de l'Alpe d'Huez, mais il le perd curieusement. Voilà, ce sont des moments clés, des moments aussi de guerre des nerfs, parce que public et coureurs sont associés dans le fait de la réussite ou de l'échec, mais bon, c'est des grands moments.
Alors cette année, l'Alpe d'Huez revient pour les étapes 19 et 20. Alors, qu'est-ce que cela représente pour les coureurs à ce stade de la course? Et est-ce que selon vous, ça peut déjà décider du vainqueur de ce Tour 2026?
Alors, il y a un grand changement dans les années, ces dernières années par rapport à avant. C'est que l'Alpe d'Huez maintenant, et les organisateurs sont très malins, mettent l'Alpe d'Huez sur la fin du Tour de France. Alors qu'avant, l'Alpe d'Huez était au milieu des étapes du Tour. Donc on pouvait considérer avant que l'Alpe d'Huez était un peu un juge qui allait décider du sort du maillot jaune ou décider du vainqueur final. Là maintenant, je pense qu'avec l'Alpe d'Huez placée comme cette année, les deux arrivées sont placées la veille et l'avant-veille de l'arrivée à Paris. Donc normalement, vu comment c'est parti déjà avec Pogacar qui domine au la main, je pense que le tour sera joué. Mais ce qui peut se passer dans ces deux étapes de l'Alpe d'Huez, c'est bien évidemment la confirmation du champion qui porte le maillot jaune. Ça pourrait aussi être, mais je n'y crois pas du tout, à une énorme défaillance, mais c'est arrivé. Mais c'est surtout que ce sont deux étapes très dures, parce que dans la première étape, le vendredi, nous avons quand même le col du Noyer, qui est un sacré col à monter. Et le lendemain, surtout, c'est une étape très très dure, le lendemain, la veille de Paris, donc, avec le col de la Croix de Fer et le Galibier, avant l'ascension de l'Alpe d'Huez. Donc je pense qu'il y aura de la bagarre, et je pense aussi que même si un coureur est en jaune, comme Pogacar, je pense qu'il aura, il aura envie de s'imposer là-haut, parce que c'est un passage obligé, et c'est, il faut que le champion se montre et s'affirme. Vous savez, avant on disait le champion doit passer en jaune dans la case déserte, dans l'ascension de l'école de l'Isoire. Bien, je crois que maintenant on peut dire que le champion doit s'affirmer en jaune en haut de l'Alpe d'Huez.
Alors, votre livre est nourri d'anecdotes, de souvenirs. Comment qu'on fait pour rassembler toutes ces histoires, autant d'histoires?
Alors d'abord, à l'origine, parce que je voulais raconter l'histoire de l'Alpe, pourquoi en 52 l'Alpe d'Huez a été choisie, alors que ça a été la première fois où le Tour de France mettait une arrivée au sommet. Ça s'est passé à l'Alpe d'Huez, et beaucoup de journalistes à l'époque criaient au fou, en disant « mais c'est pas normal, il faut leur laisser le temps de descendre, de récupérer aux coureurs ». Et ensuite, il y a eu un trou, une absence pendant 24 ans, et l'Alpe est revenue en 76, et c'est là que sa grande histoire a commencé. Donc je suis allé carrément à l'origine, c'est-à-dire voir l'homme qui est à l'origine du Tour de France à l'Alpe d'Huez, c'est un hôtelier, il s'appelle Georges Rajon, et il a l'hôtel Christina à l'Alpe d'Huez, et cet homme-là, je l'avais découvert en suivant mes premiers Tours de France, et nous logions dans son hôtel, et je remarquais avec quelle aisance et quelle connaissance il parlait de l'Alpe, du Tour, et il connaissait les champions, tous les champions le saluaient, ils étaient chez eux, chez lui. Et donc Georges m'a reçu, nous avons passé une journée entière, et là j'ai pu raconter le côté historique. Et pour le côté des anecdotes, bon, mais il y a un peu le souvenir et beaucoup de recherches historiques dans les journaux de l'époque, ce qui demande donc du temps et d'aller piocher dans les journaux pour se rappeler les événements. Parce que l'intérêt du livre, c'est pas seulement de raconter la montée, c'est de situer la montée dans l'année où elle se déroule et dans le Tour de France, c'est-à-dire montrer les intérêts, les enjeux et tout ce qui fait la grandeur de cette ascension à ce moment-là.
C'est justement ce qui le distingue des précédents ouvrages sur le cyclisme.
Alors, je dirais que cet ouvrage sur l'Alpe d'Huez, bon, pour être franc, mais l'éditeur l'a précisé, c'est une réédition qui a été actualisée, revue, je l'ai pratiquement réécrite, modernisée, parce que le livre était sorti il y a 20 ans, et donc il a fallu l'actualiser. Ça, c'est une chose. Mais je vous explique ça parce que c'était ma façon de travailler en allant puiser dans les archives, en faisant des livres un petit peu nourris d'anecdotes historiques. Et puis, petit à petit, donc j'ai commencé à faire des livres un peu plus historiques. C'est comme ça que j'ai sorti l'histoire de Gino Bartali, qui a sauvé 800 juifs pendant la guerre, ou que j'ai écrit l'année passée l'histoire d'Émile Zola à bicyclette, ce que personne, ce que tout le monde a pratiquement ignoré. Notre auteur de Germinal était un passionné de bicyclette. Et donc, voilà, j'ai voulu révéler ça. Et voilà, c'est pour vous dire que j'essaie maintenant, dans le travail d'écriture, d'aller vers un peu plus de faits historiques. Et peut-être même après, voir un petit peu si cette bicyclette qui m'accompagne jusqu'à présent, je peux pas la lâcher pour écrire peut-être d'autres choses, je sais pas.
Si vous deviez résumer l'Alpe d'Huez en un seul mot, lequel ce serait ?
Oh, je dirais consécration. Oui. Parce que les coureurs viennent là-haut pour... c'est le Graal, hein, ils viennent là-haut pour rechercher la victoire. Vous savez, je pense par exemple à Thibaut Pinot en 2015. Il était persuadé qu'il avait raté son tour parce qu'il pouvait gagner une étape sur le tour. Il était échappé avec Bardet et puis ils se sont fait piéger. C'est Steve Cummings qui gagne l'étape. Bardet réussit ensuite à gagner une étape à son tour à Saint-Jean-de-Maurienne, mais Thibaut n'avait toujours pas gagné une étape et le tour allait se finir. Et où est-ce qu'il va gagner son étape? Il la gagne à l'Alpe d'Huez et il dira « j'ai sauvé mon tour ». Pour rien au monde, j'y changerais cette victoire contre autre chose. À l'époque, les Hollandais, on appelait l'Alpe d'Huez la montagne des Hollandais, parce que pendant très longtemps, ce sont des Hollandais qui s'imposaient là-haut. Eh bien, Kuiper avait dit, pour nous, c'est plus important de gagner l'Alpe d'Huez qu'un titre de champion du monde. Vous voyez, c'est pour situer un petit peu l'importance de cette victoire.
Quel message ou quelle émotion vous aimeriez que les lecteurs retiennent de votre livre ?
Bien, je pense ce qui anime exactement, c'est-à-dire que les coureurs se présentent un petit peu, j'allais dire, nus au pied de l'Alpe d'Huez. Ils viennent déposer toute leur ambition et c'est pendant ces 14 kilomètres le moment où ils veulent s'affirmer, se dépasser, se rattraper, se racheter, montrer que c'est leur chance. Et donc c'est une montée particulière, elle a une histoire, il y a quelque chose d'immensément humain dans cette montée. Et aussi, toute la dimension du coureur, son envie de se surpasser et tout ce qui fait la beauté du Tour de France, en fait.
Est-ce que vous avez des projets d'écriture pour les mois à venir ?
Oui, bien sûr. Mais je crois que quand on commence à tomber dans l'écriture, comme Obélix, dans la potion magique, on n'en sort plus. Là, le prochain livre, il sort justement, c'est une question très intéressante que vous posez, le 19 août pour la rentrée littéraire. Et il évoquera, c'est donc, vous voyez, encore un côté historique, il évoquera le vélo sous l'occupation. Et c'est une arme de guerre et un symbole de résistance. Et donc, il y a beaucoup de choses intéressantes à découvrir.
D'accord. Intéressant, en effet. Le 19 août, vous m'avez dit.
Le 19 août, oui.
Le 19 août, on retient. On rappelle également que l'étape 19, ce sera le vendredi 24 juillet et l'étape 20, ce sera forcément le lendemain, le samedi 25 juillet. Merci beaucoup Jean-Paul Vespigny d'avoir été avec nous. Le Tour se joue à l'Alpe d'Huez, c'est sorti le 11 juin. Un livre incontournable pour tous les passionnés de cyclisme.
Merci à vous.
Merci à vous, belle journée, profitez bien du soleil. À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Au revoir. RPL.